C'est un prêtre selon mon cœur. Ses efforts me sont agréables. Par lui, il m'a plu de propager la vénération envers ma miséricorde. Bonjour, chers auditeurs de Radio Espérance. Cela fait déjà quelques semaines que nous cheminons ensemble. Je ne sais pas si vous avez reconnu qui est ce prêtre selon le cœur de Jésus. Bien sûr, nous allons parler aujourd'hui du bienheureux Michel Sopočko, le directeur spirituel de Sainte Faustine. Alors, il nous paraît important de présenter la vie du bienheureux Michel Sopočko. Bientôt, le 15 février, nous allons le fêter. J'ai invité pour cela, à nouveau, le Père Jean-Emmanuel, que vous connaissez déjà. Bonjour Père.
Bonjour chers auditeurs.
Vous avez vécu à Vilnius, vous avez sillonné comme le Père Sopočko les rues de Vilnius. Et la figure du bienheureux Michel Sopočko vous a marqué particulièrement. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Eh bien, je commencerai par dire ce que vous avez rappelé au début de cette émission, à savoir que pour un prêtre, c'est merveilleux d'entendre Jésus dire « c'est un prêtre selon mon cœur » et c'est, je dirais, le...
Oui, ce sont bien les paroles de Jésus.
Oui, ce sont bien les paroles de Jésus. C'est vraiment le désir de tout prêtre d'être un prêtre selon le cœur de Dieu. Mais on sait bien que ça implique d'accepter évidemment la souffrance. Mais le Père Sopočko me touche aussi parce que c'est un homme courageux, c'est un homme prudent, sage. C'est un homme qui a beaucoup lutté et qui n'a pas refusé la croix. Il a accepté toutes les difficultés liées à l'œuvre en faisant totalement confiance à Dieu et en sachant guider avec beaucoup d'intelligence et d'amour, beaucoup de sagesse divine, si je puis dire, le don de sagesse, cette jeune religieuse qui se confie à lui. Il y a cette association des instruments, le jumelage des instruments que Dieu aime faire, et qui est merveilleuse entre Sainte Faustine et le bienheureux Père Sopočko.
Oui, c'est vrai, nous avons eu une émission sur cette rencontre extraordinaire entre le Père Sopočko et Sainte Faustine. Alors, ce prêtre n'est pas encore très connu en France, il y a très peu de ses ouvrages qui ont été traduits en français, alors que vraiment, il y aurait besoin, parce qu'il a beaucoup écrit sur la miséricorde et beaucoup propagé la miséricorde divine.
Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, il est né en 1888 à Novosadi, près de Vilnius. C'est actuellement, Novosadi se trouve en territoire biélorusse. Il va être ordonné prêtre en juin 1914, donc juste avant ce conflit.
Donc il est très jeune, hein, comme il devient prêtre.
Il est assez jeune, il a 26 ans, mais c'est quelqu'un de brillant. Et il va être vicaire dans la banlieue de Vilnius, et là il va vraiment se dévouer, puisqu'il va enseigner le chant, faire la catéchèse, organiser des écoles, visiter les malades, et il ne mesure pas son temps ni sa peine. Là où il n'y a pas d'église, il célèbre la messe dans les greniers, confesse toute la nuit, célèbre la messe de 8 heures et rentre enfin dans sa paroisse.
Un peu comme Saint Curé d'Ars.
Un peu comme le Saint Curé d'Ars, un prêtre selon le cœur de Dieu. Et puis le samedi soir, même chose, il confesse toute la nuit et partout où il va. Il faut dire qu'à l'époque, les gens se confessaient très facilement et que, heureusement d'ailleurs, ils avaient bien raison. Ils savaient profiter de la grâce du sacrement et donc les prêtres étaient débordés. Mais vous savez qu'un prêtre, c'est quelqu'un qui se régénère au fur et à mesure qu'on l'utilise pour les sacrements. C'est ça qui est merveilleux, vous voyez. Il n'y a rien de plus déprimant et de plus fatigant pour un prêtre que de rester à ne rien faire dans sa paroisse. C'est effrayant. Tandis que dès qu'il peut se donner, alors il rajeunit merveilleusement.
Et vous avez dit qu'il s'est occupé de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il enseignait ?
Bien sûr, il faisait ce que font tous les prêtres, il faisait la catéchèse, mais il va également organiser les écoles polonaises pour de nombreux enfants, parce que vous vous rappelez peut-être que la Pologne était divisée jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre.
La Première Guerre mondiale. Oui. Donc la langue officielle, c'était le russe, et le Père Sopočko tenait à enseigner aux enfants le polonais. Et en fait, il est tellement dynamique qu'il est finalement poursuivi par les autorités russes. Il va devoir fuir avec l'accord des autorités ecclésiales. Il va arriver à Varsovie, nous sommes en 1918. Il s'inscrit à l'université de Varsovie en théologie morale. Et quand la guerre éclate entre les Polonais et les Russes, il demande d'être envoyé sur le front en tant qu'aumônier. Malheureusement ou heureusement, il va vite être ramené à Varsovie à cause de sa santé. Entre 1919 et 1924, pour vous situer un peu, Il devient aumônier à l'hôpital militaire à Varsovie, puis au camp de formation pour officiers. Ses cours ont été publiés par le ministère de la Défense. En même temps, le père Sopotchko suit les cours à l'Institut supérieur de pédagogie. Nous sommes en 1924 et là, l'évêque de Vilnius, Mgr Georges Matulevitch, l'appelle pour exercer la tâche d'aumônier militaire à Vilnius.
Comme aumônier militaire, il va devoir aussi reconstruire une église qui existe toujours à Vilnius. Et il va y consacrer beaucoup d'énergie donc, pour rebâtir cette église avec l'aide de la communauté polonaise.
Il va être en même temps responsable de la pastorale pour les militaires dans la région de Vilnius. L'évêque va lui confier également l'organisation de la pastorale pour les jeunes.
Tout à fait.
Il est modérateur de la Société des Enfants de Marie, du Cercle Eucharistique, du Tiers-Or de Saint-François. Il poursuit les études de théologie par correspondance. Il prépare sa thèse en théologie morale qu'il soutient en 1926 à la Faculté de théologie de Varsovie, tout en travaillant à Vilnius. On peut dire que le père Sopotchko, c'est un savant puisqu'il fait ses études à Varsovie. Je crois qu'après, il va se former aussi par correspondance. Il va obtenir une agrégation, c'est ça, père, en théologie pastorale?
Voilà, il devient en 1934 agrégé de théologie pastorale à l'Université de Varsovie.
1934, donc il connaît déjà Sainte-Faustine.
Oui, il connaît déjà Sainte-Faustine et c'est en finissant de préparer sa thèse qu'il va l'amener dans cette maison où donc, le tableau sera peint avec l'aide du peintre Kazimierski.
Il va aussi travailler en tant que directeur spirituel au séminaire de Vilnius où il enseigne la théologie morale et il est aussi le professeur d'histoire et de la philosophie à l'université Étienne Báthory à Vilnius et responsable de la section de théologie pastorale. Quel dynamisme,
hein? Oui.
Sainte-Faustine meurt, comme nous avons vu pendant une des émissions, en 1938. La Deuxième Guerre va éclater. Qu'est-ce qui va se passer pour le père Sopotchko?
Alors, le père Sopotchko va évidemment être menacé, en particulier à la fin de la guerre, parce qu'il a aidé de nombreux juifs à se cacher.
C'est ça.
Donc, il est recherché par la Gestapo, et il doit partir aux environs de Vilnius pour se cacher chez des sœurs ursulines qui l'installent dans une maison à la lisière des bois, à 2 kilomètres de Ksarnibor, où il passe pour charpentier et menuisier, fabriquant des outils simples pour les gens de la région. Alors on a des photos de lui à cette époque, et effectivement on voit un ouvrier polonais qui a tout du charpentier. Tous les matins il célèbre la messe, et toutes les 2 semaines il se rend chez les sœurs ursulines pour confesser. Il poursuit également son travail de recherche sur la miséricorde divine. Et il va rentrer à Vilnius le 14 août 1944. Et à l'automne, il recevra en cachette les vœux privés des 6 jeunes filles dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'ancien Carmel, conformément à ce que Sainte-Faustine avait prédit dans une vision.
Parce que, en fait, Sainte-Faustine va dire au père Sopotchko qu'il fallait qu'elle fonde une congrégation qui va propager le message de la miséricorde divine, qui va prier le monde pour la miséricorde, et elle va mourir. Cette congrégation sera fondée donc par le père Sopotchko. D'abord, il va rencontrer deux laïcs qui vont lui dire qu'elle voulait se consacrer à Dieu, donc il va tout de suite penser à cette congrégation. Ce qui est intéressant, et j'ai été très touchée en lisant le petit journal, Sainte-Faustine qui voit une chapelle dans laquelle 6 sœurs prononcent les vœux, et elle disait « dans cette chapelle, il n'y a rien, même pas un prie-Dieu ». Quand on est en 1944, où effectivement le père Sopotchko reçoit les vœux des 6 sœurs, une des sœurs va se lever, elle prend le prie-Dieu et le met dehors. Et en effet, dans la chapelle, il n'y avait rien, même pas un prie-Dieu. Le père Sopotchko ne va pas rester à Vilnius quand la Lituanie sera rattachée à l'URSS.
Alors, les autorités communistes vont demander à ce que la plupart des Polonais retournent en Pologne, soient expulsés de la région, parce qu'ils voulaient brasser, comme toujours, les nationalités, ils chassaient ceux qui étaient déjà en place pour éviter toute résistance. Donc les Polonais vont repartir, une grande partie du moins, et le père Sopotchko va se retrouver à Białystok. Et là va commencer.
En Pologne.
En Pologne, au nord de la Pologne. Et là va commencer pour lui une nouvelle vie. Évidemment, il sera prêtre dans une paroisse et il fera du ministère, et puis continuera d'écrire sur la miséricorde, mais son cœur reste quand même attaché à Vinius.
Qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques titres?
Alors, en 1949, il va éditer deux ouvrages. Un premier ouvrage qui s'intitule « Apprenons à connaître Dieu dans sa miséricorde » et un second ouvrage qui s'appellera « Méditation sur la miséricorde divine à partir des litanies, de l'heure sainte et de la neuvaine à la miséricorde divine ». Il cherchait à poser les fondements théologiques, enfin, ou à retrouver les fondements théologiques de la dévotion pour que ça ne reste pas une simple dévotion. C'est ce qui posera quelques problèmes par la suite parce que la dévotion, on sait bien qu'elle peut conduire à certaines exagérations et ça va amener des difficultés du côté de Rome quand il y aura ces déviances qui seront condamnées et donc le père Sopieszko voulait, sans le savoir bien sûr, mais poser les fondements. Il faut rappeler aussi qu'il avait écrit une œuvre monumentale, on va dire, hein, en 4 volumes, « La miséricorde de Dieu dans ses œuvres ». Malheureusement, ces volumes ne sont pas traduits pour l'instant.
C'est ça, il y a déjà un prêtre qui m'a appelé un jour en croyant que c'était traduit parce qu'il a vu sur Wikipédia l'information que cet ouvrage existait, mais en fait vous confirmez que ce n'est pas encore traduit en français.
Il y a un énorme travail à faire avec les œuvres du père Sopieszko qui sont très riches et très argumentées théologiquement, mais qui n'est pas assez connu, le père Sopieszko.
Ceci dit, on peut trouver déjà, je vous encourage, je vous invite à visiter ce site, encore une fois, faustine-message.com, où il y a des extraits des ouvrages du père Sopieszko, il y a aussi le chemin des croix qu'il a élaboré. C'est très intéressant, il développe ce que c'est la miséricorde divine, la confiance en Dieu, qui sont très 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 importants, et aussi la vertu de la miséricorde. Lors de l'émission sur la rencontre du père Sopieszko avec sainte Faustine, nous avons dit que le père Sopieszko a beaucoup souffert de vivant de sainte Faustine, et je commençais aussi à vous dire qu'il a énormément souffert après la mort de sainte Faustine, déjà à Białystok en tant que prêtre et même dans l'accompagnement de cette nouvelle congrégation. Et puis il y a un fait qui va s'ajouter, vous voyez on est en 1958, et la diffusion du message de la miséricorde est interdite par Rome. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, père?
Effectivement, il va y avoir le 19 novembre 1958 une notification de la Sacrée Congrégation, on appelait autrefois le Saint-Office, voulant limiter le culte de la miséricorde divine, et alors affirmant, de manière étonnante, que les révélations de Sœur Faustine n'ont pas de source surnaturelle, qu'il faut retirer les prières et les images venant de ces soi-disant révélations, qu'il est conseillé aux évêques et aux abbés de garder la prudence, que la fête de la miséricorde divine ne devrait pas être instituée, et enfin de donner au père Sopieszko gravissimum monitum, donc une admonestation très forte, afin qu'il ne propage pas les informations sur ces soi-disant révélations de Sœur Faustine. Alors oui, c'est extrêmement fort. Alors qu'est-ce qui s'était-il passé? Eh bien, le père Sopieszko va écrire dans son journal et nous donner l'explication. C'est très étonnant. Et il nous dit « Ce décret n'était pas pour moi une surprise, puisque le culte de la miséricorde divine n'était pas facile à introduire. Beaucoup mettaient davantage l'accent sur les révélations de Sœur Faustine et sur son élévation sur les autels que sur le bien fondé dogmatique, liturgique et psychologique du culte. » Vous voyez, toujours cette dévotion mal comprise. En réalité, que s'était-il passé? Eh bien, en mars 1948, un abbé qui avait envoyé un manuscrit à corriger concernant le développement du culte, le père Sopieszko a dû modifier la plus grande partie et a ajouté à cet écrit l'enseignement de l'Église sur la miséricorde divine. Mais le problème, c'est que cet abbé a sorti ensuite un livret sous le nom du père Sopieszko, sans son accord, intitulé « La miséricorde divine, la seule source d'espérance » et l'a fait traduire dans les différentes langues. En plus, dans sa traduction, il a ajouté que le défunt cardinal Lund, primat de Pologne, sur son lit de mort, recommandait la propagation du culte de la miséricorde divine. Même si son éminence était en général bienveillant pour ce culte, il n'avait jamais donné cette recommandation. Et comme dit le père Sopieszko, je n'étais pas au courant. Quand en 1958, Baragnac, secrétaire du défunt cardinal Lund, a lu dans un de ses livrets traduits en italien sous le nom du père Sopieszko, la mention de cette soi-disant recommandation, il a fortement protesté, affirmant que tout cela était inventé, de même que la prière pour la béatification de Sœur Faustine. Voyez. Alors, ensuite, le père Sopieszko va tenter de se défendre, mais ne faisant pas attention à mes explications, poursuit le père Baragnac a envoyé ses affirmations aux évêques dans tout le pays et à l'étranger, Au Saint-Office, il m'a présenté comme étant un menteur qui base le culte de la miséricorde divine sur des faits inventés.
Donc c'était vraiment une grande souffrance pour le père Sopočko. Et je crois qu'on réprochait aussi un certain nationalisme concernant le tableau de Jésus miséricordieux.
Oui. Alors certains, pas de manière très intelligente, ont prétendu que le rayon rouge et blanc, c'était les couleurs de la Pologne. Or, dans le journal, il n'est jamais parlé de rayon blanc et rouge. Il est parlé d'un rayon doré et d'un rayon rouge. Bon. Donc Jésus ne fait pas de nationalisme. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce père qui avait écrit cette brochure qui a déclenché toute l'affaire s'est rendu compte de son erreur et est allé en parler au nouvel archevêque de Cracovie qui s'appelait à l'époque et toujours donc le cardinal Wojtyła. Et le cardinal Wojtyła est intervenu auprès de Rome pour expliquer qu'il y avait des éléments nouveaux, ce qui a amené immédiatement la levée de l'interdiction. Et on connaît la suite.
Donc on parle bien ici du bienheureux et bientôt saint Jean-Paul II. Alors, je voudrais juste revenir sur ce gravissum monitum, cette réprimande de l'Église qui a été donnée au père Sopočko. Vous savez que le père Sopočko, donc, il va aller voir le cardinal Wyszyński, le primat de Pologne à l'époque, et c'était au cardinal Wyszyński de lui donner ce gravissum monitum, c'est ça, père. Hein. Et le père Sopočko va s'asseoir, il va dire, voilà, éminence, j'attends ce gravissum monitum, et le cardinal lui répondra, mais pour vous, le fait d'entendre que ce culte de la miséricorde est interdit est déjà une grande punition. Vous voyez la bonté du cardinal et la compréhension du cardinal Wyszyński à l'égard du père Sopočko.
Alors bien sûr, ça a été une souffrance terrible pour le père Sopočko, mais en même temps, il savait que cela devait arriver parce que Sainte Faustine lui avait annoncé que le message serait combattu et que, d'une certaine manière, il serait complètement anéanti pendant une période. Donc il a reçu tout ça avec beaucoup de force et beaucoup de grandeur d'âme. En 1965, donc 10 ans avant sa mort, il sera consulté pour le début du procès de béatification de Sœur Faustine par le cardinal Wojtyła. Il interviendra comme témoin. Donc ce sera une réhabilitation.
Et en quelque sorte, premier fruit de son travail.
Premier fruit de son travail parce qu'il a évidemment le soutien total de cardinal Wojtyła qui deviendra le pape Jean-Paul II. Wojtyła connaissait Sœur Faustine depuis 1940 pratiquement, puisque chaque fois qu'il allait de son lieu de travail pendant la guerre au séminaire clandestin où il étudiait, il passait devant le monastère de Sainte Faustine. Et avec son ami Descours, qui lui expliquait ce que Sainte Faustine avait donné à propos de la miséricorde. Quand il est devenu pape, évidemment, une deuxième encyclique, ça a été riche en miséricorde. Et je voudrais simplement ajouter que si Dieu permet de telles épreuves, qui nous paraissent incompréhensibles, c'est toujours pour la sanctification de ses amis. Et je pense que bienheureux Père Sopočko sera un jour canonisé, c'est juste un avis personnel, mais c'est une très haute figure de l'Église.
Et le père Sopočko va mourir en 1975, comme je vous ai dit lors de l'émission sur la rencontre avec Sainte Faustine. Ça sera la fête du saint patron de Sainte Faustine, Saint Faustin, un 15 février, et aussi de Saint Claude la Colombière, l'accompagnateur de Sainte Marguerite Marie, apôtre du Sacré-Cœur. Rappelons encore que le père Sopočko n'a jamais vu la fête de la miséricorde divine instituée, mais il avait confiance qu'un jour cette fête sera instituée et que la miséricorde divine apportera une nouvelle splendeur à l'Église. Alors, Sainte Faustine, quand le père Sopočko est allé la voir juste avant qu'elle ne meure, elle lui a promis de l'aider du haut du ciel et elle l'a aidé. Le père Sopočko a été béatifié en 2008, c'était un 28 septembre. Le père Jean-Emmanuel a accompagné notre pèlerinage pour cette béatification, le pèlerinage qui est venu de France. D'ailleurs, père, je pense que vous avez vraiment été choisi par le père Sopočko pour concélébrer à cette messe de la béatification. On dit que c'est pas nous qui choisissons les saints, c'est les saints qui nous choisissent. Donc vous avez représenté en quelque sorte la France à cette béatification, ça vous a touché, je suppose.
Ça m'a bien sûr énormément touché. Je me rappelle de cette foule immense, polonaise, mais pas seulement. Il y avait des Lituaniens, il y avait des Français, il y avait des gens de partout. Et puis il y a eu cette intervention magnifique du primat de Biélorussie, qui s'appelle Monseigneur
Kondrushevitch.
Kondrushevitch, pardon, oui. qui a dit « C'est merveilleux parce que, voyez, à travers cette béatification, ce sont nos trois pays qui sont réunis. » Et alors, il voulait parler de la Biélorussie, puisque le père Sopieszko est né dans ce qui est aujourd'hui la Biélorussie. C'était à l'époque une partie de la Lituanie, mais c'est maintenant la Biélorussie. Il a œuvré en Lituanie, en grande partie, et il a, évidemment, il était polonais. Donc, réconciliation, unification de ces trois pays qui doivent travailler ensemble à la diffusion de ce message de la miséricorde. Dieu veut toujours jumeler ses instruments.
Oui, c'est ça. Et je voudrais, avant de finir, vous lire un petit extrait du petit journal où on dirait que Sainte Faustine voit la béatification de son directeur spirituel. Au pied de Jésus, je voyais mon confesseur et derrière lui un grand nombre des plus hauts dignitaires de l'Église, dont je n'avais jamais vu les habits, sauf en vision. Derrière eux, des membres du clergé. Plus loin encore, je vis des grandes foules que je ne pouvais embrasser du regard. Je voyais ces deux rayons sortant de l'hostie, les mêmes qui sont sur l'image, qui étaient étroitement unis, mais ne se confondaient pas. Ils passèrent par les mains de mon confesseur, puis par les mains de ses clergés, et de leurs mains à la foule, puis revinrent à l'hostie. Merci beaucoup, Père. Nous espérons que les auditeurs ont pu, grâce à cette émission, mieux découvrir le bienheureux Michel Sopočko. Vous pouvez lui demander d'intercéder pour vous, surtout pour les prêtres, hein, qu'ils soient prêtres selon le cœur de Jésus. La semaine prochaine, nous allons réfléchir ensemble comment faire grandir notre confiance en Dieu, notre amour du prochain à l'école de Sainte Faustine. Je vous dis donc à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse dans sa grande miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi.